Marches de la foi, une émission du service diocésain de formation continue sur Radio Grand Ciel. Bonjour, Didier Gougis est avec vous cette semaine et mon invité est Jean-Claude Becker, membre de l'équipe du CRC, Centre de réflexion chrétienne. Bonjour.
Bonjour Didier.
Nous avons aussi un invité au téléphone que nous vous présenterons dans un instant. Alors Jean-Claude, vous êtes donc membre de l'équipe du Centre de réflexion chrétienne. Pouvez-vous nous présenter en quelques mots le CRC ?
Alors le Centre de réflexion chrétienne, il est né dans les années 70 à la suite du Concile Vatican II. Au départ, c'était une espèce de fédération de groupes bibliques, de groupes d'histoire de l'Église, de groupes d'études de théologie. Et on a eu la chance d'avoir Étienne Charpentier qui était là pour fabriquer des fiches, pour lire l'Ancien, pour lire le Nouveau Testament. Et à partir de ces fiches, il a fait des livres qui ont eu une bonne diffusion à
Étienne niveau Charpentier, donc, qui était prêtre du diocèse de Chartres et effectivement qui est bien connu des biblistes, même s'il est décédé maintenant il y a de nombreuses années.
Voilà, alors on a eu aussi Henri Boucherie qui malheureusement est décédé aussi. Il y avait des laïcs, je pense à Emmanuel Faux. Et puis petit à petit, les groupes d'études bibliques ont pris leur indépendance par rapport au CRC. Il n'y a plus de groupe d'histoire de l'Église ni de théologie. Mais nous sommes restés un espèce de service au service du diocèse pour proposer des formations. Bien sûr, toujours au niveau de la Bible et de l'histoire de l'Église, mais aussi en essayant d'être branché sur des problèmes de société. Ça a pu être le mariage. L'an dernier, on était sur la fraternité. Et cette année, on va s'interroger sur la liberté et face à l'info, la liberté des journalistes, mais aussi notre liberté à nous qui recevons les infos, comment on l'utilise.
Donc, et là, c'est un cycle de trois conférences qui vont avoir lieu sur ce thème.
Tout à fait.
Donc, vous avez également prévu une première conférence, donc cette année, qui aura lieu le 8 octobre à 20h30. Et elle a un titre qui intrigue, « La Bible cachée, le mystère des apocryphes ».
Alors, nous avons fait appel à Michael Langlois pour ce sujet. Michael, tu es au téléphone ?
Oui, je suis là.
Très bien. Alors, tu enseignes à la faculté de Strasbourg en théologie. Tu enseignes l'Ancien Testament, l'hébreu. Tu enseignes d'autres choses ?
Non, c'est l'essentiel. J'enseigne également à l'Institut catholique de Paris, la critique textuelle. J'enseigne à Rabat, au Maroc, les disciplines bibliques. Voilà un petit peu pour mon parcours.
Voilà, puis tu es chercheur associé au CNRS et au Collège de France. Alors, les écrits apocryphes, est-ce que ce sont des écrits cachés dans des coffres-forts, dans des bibliothèques poussiéreuses, un petit peu comme ce qu'on voit dans le film Le Nom de la Rose ?
Alors, les livres apocryphes sont cachés par définition, puisque c'est le sens même du mot apocryphe qui veut dire caché. Maintenant, caché où, caché par qui, caché pourquoi, ça peut varier d'un livre à l'autre, et c'est précisément ce qu'on va essayer de comprendre à l'occasion de cette conférence.
Alors, quand on lit les titres de certains apocryphes, l'évangile de Thomas, de Marie, de Philippe, l'évangile des Ébionites, on se dit que c'est le même style de littérature que notre littérature chrétienne, bon, en particulier du Nouveau Testament ?
Oui, alors on a effectivement affaire à une production littéraire du christianisme ancien, et effectivement on retrouve les mêmes genres littéraires, on va retrouver des textes narratifs, on va retrouver des textes plutôt apocalyptiques, on va retrouver un peu le même genre des dialogues, des documents épistolaires, on va retrouver toute cette même littérature, et c'est ce qui est assez troublant au départ, puisque pour le croyant qui est habitué à lire sa Bible, il a l'impression de lire sa Bible, sauf que c'est pas sa Bible justement.
Et alors, quand on parle d'apocryphe, des fois on a l'impression que c'est des choses sulfureuses. Est-ce que ça va être dangereux de toucher ou de lire les apocryphes ?
Non, il n'y a pas de danger là. C'est pas comme dans le Nom de la Rose. Il n'y a pas de danger. On peut tout à fait les lire. Ils sont d'ailleurs accessibles dans des éditions grand public. Je pense surtout ce qui est intéressant, c'est d'avoir des clés de compréhension, de savoir quels sont les milieux qui ont produit ces ouvrages, cette littérature, à quelle époque, dans quel contexte et pourquoi. Alors il y a effectivement quelques livres un peu sulfureux. On aborde assez souvent la question de la relation entre Jésus et Marie-Madeleine. Donc évidemment, les apocryphes viennent souvent combler des trous dans les évangiles. On ne sait pas grand-chose de la naissance de Jésus ou de son enfance dans les évangiles. On ne sait pas grand-chose. Donc en fait, finalement, c'est là pour assouvir, disons, la curiosité du lecteur, je dirais.
D'accord. Et finalement, c'est sûrement un de leurs intérêts, c'est qu'ils nous renseignent sur, sur ces milieux enfin, des premiers siècles de l'Église, de l'histoire chrétienne.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, les évangiles apocryphes qui vont nous parler de l'enfance de Jésus ne nous renseignent certainement pas sur la véracité des événements qui sont relatés. On n'en apprend pas forcément beaucoup sur Jésus lui-même. On en apprend surtout sur ceux qui ont écrit ces évangiles, quelles étaient les questions qu'ils se posaient, leurs interrogations. Et finalement, c'est intéressant parce que ça peut faire aussi écho à des questions que nous pouvons également nous poser aujourd'hui.
D'accord. Et en plus de ça, on est un peu imprégné par certains de ces évangiles apocryphes. Je pense un peu au récit autour de la nativité.
Oui, tout à fait. Bah, en fait, on a parfois peur de s'aventurer dans le domaine apocryphe parce qu'on se dit, oh là là, mais où vais-je mettre les pieds? En fait, on y a déjà tous mis les pieds. Quand on demande quel est le nom des rois mages, tout le monde connaît enfin, en tout cas, un bon nombre de croyants connaissent la réponse. Oui, bien sûr, on connaît les noms des rois mages, sauf que précisément, ces noms sont connus par des traditions apocryphes et pas dans les quatre évangiles canoniques.
D'accord. Alors, toi, tu t'es intéressé aux apocryphes chrétiens, mais tu t'intéresses également aux apocryphes juifs.
Oui, c'est ça. Il y a le même phénomène. Disons qu'on soit dans le judaïsme ou dans le christianisme, on observe le même phénomène, une abondante production littéraire qui revient sur les personnages bibliques. Donc, tout comme des évangiles apocryphes s'intéressent à Jésus, des ouvrages apocryphes juifs vont s'intéresser à Abraham, à Moïse, aux patriarches, et on va aller creuser un petit peu dans le détail de leur vie, de leur parcours, de leur mésaventure.
Et alors, si tu t'intéresses à ça, est-ce que c'est juste parce que tu es un érudit ou est-ce que ça a un rapport avec notre lecture du Premier Testament, par exemple?
Oui, je pense que c'est important, puisque là encore, c'est le reflet de la façon dont le judaïsme contemporain de la naissance du christianisme a perçu ces écritures, dont ils les ont reçues, transmises. On va également retrouver des traditions apocryphes dans le Nouveau Testament. On va faire allusion à des épisodes de la vie de Moïse qui ne sont pas mentionnés dans le Patateuque. L'épître de Jude va citer le livre d'Énoch, qui est un ouvrage apocryphe. Donc en fait, même si l'intérêt premier des croyants et de mieux comprendre leur Bible sans forcément chercher à l'augmenter de tous ces apocryphes, en fait, la lecture des apocryphes va leur permettre de mieux comprendre la Bible.
Bon, bah écoute, alors, grand merci. Donc, tu viens à Chartres le jeudi 8 octobre et donc, nous te retrouverons un peu pour creuser un peu ce sujet avec grand intérêt. Je rappelle que tu étais venu il y a 2 ans, je crois, pour nous parler des écrits de la mère Mork, et tout le monde avait été passionné par ton intérêt, par ton intervention.
Oui, ça avait été très très bien, très, beaucoup remarqué par tout le monde. J'ai quand même une petite question sur les apocryphes, parce que qu'est-ce qui fait qu'ils sont apocryphes? Quelle différence avec nos textes bibliques?
Oui, alors le qualificatif apocryphe ne se comprend que par opposition au qualificatif canonique. C'est-à-dire un livre est apocryphe parce qu'on a décidé qu'il était apocryphe, c'est surtout qu'on a décidé qu'il n'était pas canonique. Donc pour répondre à cette question, il faut qu'on creuse un petit peu ce que c'est que le canon des Écritures, la liste des livres qui composent la Bible, qui a décidé d'inclure certains livres et pas d'autres, à quelle époque est-ce que ça s'est fait? Et bien, tout ça, c'est ce dont on va parler précisément la semaine prochaine.
Très bien, merci beaucoup. Donc je vous rappelle que la conférence aura lieu le jeudi 8 octobre à 20h30 à la Visitation, 26 avenue d'Aligre à Chartres. Vous retrouvez toutes ces informations d'une part sur la page Facebook du CRC, CRC 28, ainsi que sur le site du diocèse, diocèsechartres.com, à la rubrique formation ou dans l'agenda. Vous pouvez également en savoir plus sur Michael Langlois, sur son site michaellanglois.fr. Je vous rappelle également que cette émission est diffusée le lundi à 10h15, le mercredi à 16h15 et rediffusée le vendredi suivant à 7h. Et bien sûr, vous pouvez l'écouter ou la télécharger partout et à toute heure sur radiograndciel.fr. Merci à nos invités. Au revoir Jean-Claude.
Au revoir.
Au revoir Monsieur Langlois.
Au revoir.
Et merci à Simon qui a assuré la technique de cette émission. Et à bientôt sur Radio Grand Ciel. Thank you.
perdu dans les racines de cet arbre effrayant. Oui, je crois bien que je m'égare dans l'instant. Un peu de hauteur, un peu d'air, loin de la terre. Mais je m'aperçois que l'hiver est déjà là. Il me tient par les deux bras. Encore une fois, faut-il avancer sur la tête pour être reçu à la fête? Faut-il hurler à la fenêtre que notre genre va disparaître? On ne parle jamais du feu qui brûle dans tes yeux. C'est pas dans la tendance de vouloir être heureux en invoquant les cieux. Je ne veux pas disparaître. J'ai invoqué les cieux. Je ne veux pas disparaître. J'ai invoqué les cieux. Je ne veux pas disparaître, pas disparaître. J'ai invoqué les cieux, j'ai invoqué les cieux. Et je m'en fous, j'y crois toujours. Je sais que je trouverai un jour, même si du sang je dois verser pour de l'amour, pour exister. On se reverra à l'arrivée. Tu pourras croire que j'ai foiré, mais jamais je me suis résigné. Jamais j'ai arrêté de marcher. C'est vrai, ma route est cabossée. Bien arriver au port, malgré ce vent du nord, atteindre le sommet, même si souvent j'ai tort, briser la glace qui m'enlace, qui menace, mes cicatrices sur la face ne laisseront pas de traces si je rejoins l'espace. Quand l'or s'évapore, quand on perd le nord, quand le sang m'ignore, alors j'ai la mort au corps. Je veux vivre encore un dernier effort. Et je te vois alors. Ça y est, j'ai mon trésor. Ça y est, j'ai mon trésor. Je sais que je trouverai un jour, même si du sang je dois verser pour de l'amour, pour exister. On se reverra à l'arrivée. Tu pourras croire que j'ai foiré, mais jamais je me suis résigné. Jamais j'ai arrêté de marcher. C'est vrai, ma route est cabossée. Tant pis pour une pause méritée. Là-haut j'aurai le temps de rêver. 100 fois, 1000 fois debout. La vie est courte pour s'arrêter. On n'aurait jamais fait le tour, mais faut bien commencer un jour. Je suis souvent aveugle et sourd, mais la lumière brille dans ma cour. Mon père me relèvera toujours, toujours.